les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui de la poésie, un scandale alimentaire, un détour par l'Afghanistan et un entretien-reportage en Haïti avec une figure de la francophonie. C'est le printemps des poètes qui débute ce week-end et qui célèbre ses 20 ans à travers toute la francophonie. La poésie donc à l'honneur tout le mois de mars. Bonjour Karl Norak.
Bonjour.
Vous êtes un poète belge connu aussi pour vos livres pour la jeunesse. Vous publiez le livre des beautés minuscules aux éditions Rue du Monde. Où trouve-t-on ces beautés minuscules, Karl ?
On en trouvera 36 dans le livre, murmuré.
Oui, 36.
Mais sinon, voilà, on en trouve au creux des arbres, au bord des cailloux, un peu partout, heureusement.
Dans la vie, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Exactement.
Tous les détails de la vie.
Comme le disent les enfants, ils me disent souvent, tu prends un peu de vie et tu la mets dans ton poème.
C'est ça, vous êtes un contemplatif, quelque part.
Ben, j'espère, je pense que c'est plutôt un compliment, je vous remercie.
Bon, on en parlera avec vous, on lance ce printemps des poètes ici dans cette librairie. Il sera aussi question du gaspillage alimentaire, véritable scandale international. Amélie Roman vous parlera d'un livre de cuisine qui agit contre ce gaspillage. 6,3 millions de tonnes de nourriture sont jetées tous les ans au Canada, 3,6 millions en Belgique. Nous verrons ce que nous pouvons faire depuis notre simple cuisine. L'écrivain franco-afghan Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008 pour Singe Sabour, et sur notre plateau pour son nouveau roman. Et puis nous irons en Haïti, à Port-au-Prince, dans un lieu festif et culturel, pour un entretien avec Yannick Lins, qui entre au Collège de France le 21 mars. Elle sera la première titulaire de la chaire des mondes francophones.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada dans la librairie Carcajou. À Rosemère, le printemps arrive bientôt, vous êtes courageux?
Oui, vous savez que le printemps peut parfois se faire attendre ici.
Oui, c'est vrai, ça peut être très long, ça peut arriver au mois de juin. Laura Sanchez est-elle en Suisse, libraire dans la librairie du Boulevard à Genève. Bonjour Laura.
Mais bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Oui, super.
Bien, bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire belge, notre libraire
Bonjour.
Belge, à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. En France, voici Thomas Auxerre de la librairie L'Amandier, à Puteau, à côté de la Défense à Paris. Bonjour Thomas.
Ben, bonjour Emmanuel.
Comment ça va?
Ben, moi, écoutez, ça va super. Et vous, comment ça va?
On dirait ça va.
Une petite maladie, non?
Une petite grippe.
Ah oui.
Un petit 39, là. Mais vais-je tenir jusqu'à la fin de l'émission? C'est le suspense.
Vous le portez bien, en tout cas. Vous le portez bien.
Bon, ça va, allez, vous inquiétez pas. La semaine prochaine, nous serons au Salon du Livre de Paris pour une émission événement sans grippe, sans rhume, sans rien, j'espère. Enregistrement exceptionnel vendredi 15 mars à 15h en public. On vous attend nombreux car il y aura des surprises et notamment une co-animation avec un célèbre auteur français. Je vous dévoile son nom à la toute fin de l'émission. Et puis ce dimanche, la première édition de la librairie francophone version télé sera diffusée sur TV5 Monde dimanche à 19h. Où que vous soyez dans le monde, vous pourrez voir ce nouveau programme déclinaison de cette émission de radio. Et bonjour Atiq Rahimi.
Bonjour.
Comment allez-vous, Atiq?
Ça va, ça va.
Ça a l'air. Bon.
Oui. Mais dans quel sens, où, je ne sais pas encore, mais ça va.
Vous voyagez beaucoup en ce moment. Nous parlerons de votre nouveau roman tout à l'heure, un double récit saisissant, parfois sensuel aussi, qui laisse une place à la poésie, ça tombe bien. On commence cette émission par une anecdote personnelle, drôle, étonnante, émouvante, ce que vous voulez. C'est votre tour. Qu'avez-vous choisi de nous raconter, Atiq?
Ah. À propos de mon chapeau, parce que ça intrigue tellement de personnes.
Et vous avez toujours un chapeau.
Il y a quelques années, j'étais avec feu mon éditeur Tchaïkovski Lorenz au Salon du Livre de Jérusalem. Un jour, je prends un taxi pour me rendre à une séance de signature. Le chauffeur, intrigué, me regarde et me demande d'où je viens. Je dis de France, mais je suis d'origine afghane. Un coup sec au frein, le volant qui part dans tous les sens, me regarde et dit hein, « En Afghanistan, il y a des juifs ?» Et, oui, en effet, il y en a eu pas mal, mais moi je suis d'origine musulmane. Encore un coup sec, et puis il me regarde et dit « Mais êtes-vous converti en judaïsme ?» Je dis « Non, pourquoi ?» Je dis « Vous portez ce chapeau comme les juifs
?»
Et je dis, ben oui, vous savez pourquoi nous on porte? Je dis, oui, c'est pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Ah ben voilà, et vous? Je dis, moi je le mets pour m'en protéger.
C'est vrai que vous avez dit ça ?
Oui.
Et coup de frein.
Il m'a amené jusqu'au salon. Il n'a pas pris de l'argent.
Ah ouais.
Et voilà.
Il y a plein de symboles là-dedans.
Exactement.
Bon, votre livre est plein de symboles d'ailleurs. Atik Rahimi est dans la librairie francophone cette semaine. Et Karl Norak aussi, il est avec nous pour le Printemps des Poètes qui débute ce week-end dans la plupart des pays francophones. Vous êtes né à Mons en Belgique, Karl. Dès l'enfance, dans la forêt du Hainaut, vous construisez des cabanes. Alors ça, c'est merveilleux pour l'imaginaire. Et vous nouez une amitié avec les arbres. Tout vient de là ?
Mais je pense que quand on est enfant et qu'on vit au sein d'une forêt, sans frère ni sœur d'ailleurs, avec 6 km carrés d'exploration, mais il y a un moment où il y a une rencontre, il y a un frottement, il y a un moment donné où on se heurte un petit peu aux arbres aussi, et il y a d'autres moments où on leur parle et il y a encore d'autres moments où on a l'impression qu'ils vous répondent.
Et dans ce livre qui sort chez Rue du Monde à l'occasion du Printemps des Poètes, il y a un hommage aux arbres. Dans le poème « Juste un peu », vous dialoguez avec un arbre. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit en général, les arbres ?
Mais les arbres, ils parlent arbres, alors il faut avoir beaucoup de lenteur pour les traduire. Moi, quelquefois, d'ailleurs, je dis aux enfants que les arbres, ils marchent mais tellement doucement qu'on ne le voit pas. Ouais. Et je pense que quand je parle de ça aux enfants, que le vent peut nous dire quelque chose, qu'un caillou peut nous donner un tout petit mot, parce qu'il est petit aussi. En fait, les enfants, ils marchent totalement avec ce type de merveille. Mmh. Et c'est quelque chose qui est dans la part d'enfance de chacun d'entre nous, qui doit être conservé. Il faut parler aussi avec l'enfant comme avec l'arbre.
Eh oui. Et vous écrivez à la fin de l'histoire, devinez quoi, en parlant de l'arbre, « Il m'a envoyé un oiseau pour me dire au revoir ».
C'est oui, joli, alors ça. Les dernières recherches scientifiques sur les arbres montrent qu'ils communiquent entre eux et parfois même par les oiseaux.
Ah oui.
Donc c'est une image poétique mais qui n'est pas si réelle que ça.
Ah, c'est possible ça, vous croyez ?
Ah, j'en suis persuadé.
Qu'il y ait une communication entre les arbres et les oiseaux ?
J'en suis persuadé parce que déjà ils se touchent, donc il y a quelque chose de tactile. Mmh. Et je vous dis, il y a des études qui étudient ça aujourd'hui. Et donc moi, quand je vois tout ça, je me dis, ben, l'enfant que j'étais, ben, il était en train d'explorer peut-être un monde plus réel qu'il ne pensait. Mmh.
La nature est très présente dans ce livre, des beautés minuscules. Vous incitez les enfants à travers ces poèmes à contempler la vie, en fait, à contempler les détails de la vie.
Voilà, parce que bon, par exemple, quand je parle des oiseaux, bon, c'est vrai qu'il y a une étude du Monde qui a prouvé que un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. Et donc, quand on est poète, c'est vrai qu'on est dans la contemplation, mais qu'on a envie de regarder aussi de l'autre côté du miroir. Ce livre, d'ailleurs, est un peu un tournant, parce que je pense qu'il y a une forme d'urgence poétique, comme il y a une urgence climatique ou humaniste.
L'urgence poétique, l'urgence de vivre, l'urgence de voyager aussi, parce que vous avez beaucoup voyagé, Karl Norak, vous en avez puisé plein de choses d'ailleurs. Des voyages et des vagabondages, dites-vous. En 1997 notamment, vous tombez amoureux de Montréal. Vous en faites un livre, Carnet de Montréal, paru aux éditions du Norrois. Et en 2014, vous sillonnez le Québec pour rencontrer vos lecteurs. Et ce sont ces voyages qui vous emplissent de poésie, on peut dire ça ?
Ah oui, le Québec, c'est un petit peu mon pays de cœur. J'ai arpenté, un peu comme dans un roman américain assez célèbre, en fait, toutes les rues de la ville.
Ouais.
Et j'avais écrit un carnet de Montréal, un carnet où toutes les rues ont été parcourues. Et donc, j'adore me perdre, en fait. C'est pour ça que j'adore Paris.
Oui, c'est vrai, Paris aussi, vous avez fait des livres, d'ailleurs. Dans le métro, vous avez dessiné, comme ça, les femmes du métro.
Voilà, c'est un petit jeu oulipien. C'était de regarder la femme qui est devant soi, essayer de la portraitiser avec des mots.
Et c'est très poétique à chaque fois. Il y a un fan de poésie, c'est notre spécialiste poésie d'ailleurs dans l'émission, il est du Québec justement, c'est Jérémy Lagniel qui a lu votre ouvrage, Karl Norak. Jérémy, qu'en pensez-vous ?
Bien, le livre-objet en soi, il est magnifique. Moi qui ai connu Norak avec la très belle BD Au pays de la mémoire blanche, d'ailleurs dessinée par le Québécois Stéphane Poulin, je le découvrais pour la première fois en poète, je l'avoue. C'est un livre parfait pour la jeunesse. Ça ouvre au lecteur la possibilité du langage sans jamais se perdre dans des difficultés syntaxiques, ce qu'on peut quand même souvent faire. Assurément, un plus pour les bibliothèques de nos tout-petits.
Oui, c'est très accessible. C'est un livre absolument génial. Et je suis sûr que Déborah Damblon en Belgique est d'accord avec moi.
Ben oui, évidemment, Emmanuel, ça commençait bien d'abord parce que les éditions Rue du Monde, j'adore. Et puis j'adore aussi la délicatesse gracieuse et facétieuse de vos textes, Monsieur Norak. Alors les deux ensemble, eh bien, c'est un peu une idée que je me fais du bonheur, moi. Alors de la poésie si joyeusement accessible dans un écrin si joliment illustré, c'est tout à fait ce qu'il faut pour dépoussiérer le concept. Alors je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne des furieuses envies de les réapprendre par cœur comme quand on était petit et puis de les partager, de les dire à tout le monde.
Bon, Karl Norak, vous évoquez le rapport au temps dans votre recueil de poèmes pour la jeunesse. Le temps qui passe, mais selon le temps lui-même, il faut savoir saisir la beauté d'une seconde.
Oui, moi je pense que un poète, c'est avant tout un collectionneur d'instants. C'est pas quelqu'un qui regarde les siècles, c'est quelqu'un qui regarde le petit caillou devant lui et l'instant qui est en train de passer. C'est un passeur de temps, mais c'est un collectionneur aussi.
Vivre le temps présent, c'est tout accepter, Karl. C'est dans chaque moment de la vie, finalement, on se dit qu'il y a du bon.
Oui, moi je pense que quand le poète s'adresse à un enfant, ben, déjà il essaie de lui montrer tout ce qui est vivant. Et déjà il essaie de lui montrer que le poète est encore, qu'il peut être quelqu'un de vivant. Il n'y a pas longtemps, une petite fille, elle a couru vers moi après la rencontre pour me dire « ça m'a fait tellement de bien de t'écouter parce que tu vois, je croyais que tu étais mort en fait ». Donc et pour elle, un poète, c'était quelqu'un qui vivait autrefois. C'était magique de voir quelqu'un qui sortait du livre, un peu comme un fantôme assez large d'ailleurs, et voilà, et souriant.
Vous écrivez « écrire un poème, c'est penser qu'il peut faire beau, même au milieu d'un nuage ».
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, la beauté, on va aller la chercher parfois en contraste de ce qu'on ne trouve pas beau. Mmh. Et chacun peut trouver la beauté de manière différente. D'ailleurs, au Québec, j'avais acheté une sculpture inuite. Et alors, c'était un grand artiste. Mais on disait que ça ne se vendait pas parce qu'il faisait des bouches fendues, un peu ce qu'on appelle le bec de lierre. Et cet artiste avait dit... Je vais sculpter cette bouche toute ma vie parce que j'étais amoureux d'une fille qui était comme ça. Et ouais. Pour moi, la beauté, c'est ça. Et envers les enfants, au fond, la beauté, c'est pas une leçon à leur donner, mais à leur dire, choisis ce qui est beau pour toi et pas ce qu'on t'inculque qui est beau.
Bon, on va terminer avec une lecture d'un de vos poèmes sur la musique de Carlos Jobim que vous avez choisi. Une petite création sonore poétique pour la librairie francophone signée Karl Norak dans le cadre du 20e printemps des poètes.
Dans ma poche, j'ai trouvé un papier. Sur le papier, il y avait un poème. Dans le poème, j'ai repéré un bateau. Sur le bateau, j'ai vogué avec mon regard. Dans ce regard, il y avait un souvenir. Ce souvenir était grand comme une poche, pas par hasard, rien de géant, mais juste assez pour y glisser un deuxième papier, et sur ce papier, un poème qui va où il veut. Là, tu es en train de le lire. Si, après l'avoir terminé, tu fermes les yeux, il restera là, à voguer, doucement, sous la poche de tes paupières.
Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha aqui.
Dans ma poche, un poème extrait du livre des beautés minuscules, signé Karl Norak et Julie Bernard. Merci beaucoup, Karl.
Merci beaucoup.
Merci infiniment pour ce livre magnifique, et puis paru aux éditions Rue du Monde. Et puis le printemps des poètes, c'est du 9 au 25 mars. Bon printemps des poètes, Karl.
Merci.
À bientôt.
Bon printemps aussi.
Aujourd'hui, plus d'un tiers de la production dans le monde est gaspillée. Alors qu'un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim.
La librairie francophone.
Et si les fabricants industriels et la restauration ont une grande part de responsabilité dans ce gâchis, ce sont les ménages qui jettent le plus. 42% du gaspillage alimentaire.
Emmanuel Kérad.
Et on part tout de suite à Bordeaux, en France, rejoindre Amélie Roman qui co-signe un livre sur la cuisine éco-responsable, bon pour la planète, et qui lutte bien sûr contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Amélie Roman.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, merci à nos confrères de France Bleu Gironde également qui assurent ce duplex. On peut limiter le gâchis alimentaire à son niveau dans sa propre cuisine, Amélie?
Ben déjà c'est facile, quand vous faites vos courses, vous faites vos listes de courses à l'avance et vous évitez d'acheter trop. Déjà quand on achète juste ce qu'on a besoin pour la semaine, ça évite de jeter la moitié de ce qu'il y a dans le frigo à la fin de la semaine. Déjà c'est ce qui me paraît le plus simple pour limiter son gaspillage alimentaire. Et après, il y a pas mal d'autres choses à faire. Évidemment, quand vous avez des légumes en trop, ben, vous les découpez, vous les congelez, vous les cuisinez, que ce soit dans des cakes. Il faut éviter de jeter au maximum, puisque de toute façon, déjà, c'est une perte financière pour le ménage. Et en plus de ça, quand vous les avez dans le frigo, il vaut mieux faire en sorte de les conserver au maximum, de les cuisiner pour éviter que ça finisse à la poubelle.
Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on peut, avec des restes de légumes, faire des sauces. On peut, avec des carcasses de poissons ou de volailles, faire des bouillons. Et vous le dites, c'est vrai, tout commence par savoir faire ses courses. Bien doser, vous écrivez, c'est la clé de l'anti-gaspi.
Exactement. C'est ce qu'on propose justement dans la partie menu zéro déchet du livre Cuisiner éco-responsable. C'est des listes de courses et des menus qui sont préparés à l'avance, ce qui vous permet en fait d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin pour la semaine. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, dans votre frigo, il est censé rien rester et vous jetterez rien du coup.
Le gaspillage alimentaire est considérable hein, dans les supermarchés. La France a légiféré avec une loi qui oblige depuis 2016 les supermarchés de plus de 400 mètres carrés de céder ses invendus alimentaires à des associations. Et c'est l'un des seuls pays au monde à l'avoir fait. Quand on fait ses courses dans un supermarché, on imagine très bien, Amélie, le gâchis qu'il y a derrière. Mais que peut-on faire, nous, avec notre caddie? On est impuissant face au gigantisme alimentaire des supermarchés, non?
Ben moi, ce que je vous recommanderais, c'est de faire vos courses au maximum chez les petits commerçants, chez le boucher, chez le poissonnier, sur le marché. Vous évitez le gaspillage alimentaire parce que vous achetez juste ce que vous avez besoin. La problématique souvent des supermarchés, c'est qu'on arrive, il y a des promos. Mais du coup, vous achetez peut-être 4 packs de yaourts alors que vous êtes 2 ou 3 à la maison. À la fin du mois, la date est passée, vous les jetez alors que vous n'en aviez pas forcément besoin.
Ouais. Bon, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils pensent de ce livre « Cuisiner éco-responsable » paru chez Mango, Amélie Roman. Il y a la France et la Suisse qui se sont penchés sur le sujet. Thomas Auxerre pour la France.
Bah oui, alors bah moi écoutez, j'ai bien aimé ce livre, hein. Je pense qu'il peut plaire à tous ceux qui veulent le bien de la planète mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Déjà, c'est pas dur à mettre en place, hein. Moi j'ai trouvé, il y a plein de propositions pour s'organiser. Et puis bah si vous êtes pas encore trop sensibilisé sur le sujet mais que vous souhaitez vous y mettre, franchement c'est un livre très précieux quoi. Ouais. Très bien.
Ouais. Très précieux, très facile aussi à appréhender.
Ouais, exactement.
Laura Sanchez en Suisse, qu'en pensez-vous?
Bah moi aussi, je trouve que ce livre est très très réussi. Vous nous invitez à repenser nos moindres gestes quotidiens pour mettre fin au gaspillage au sens large. Et puis d'une certaine manière, c'est redonner du pouvoir à tout un chacun, de sentir que chaque geste compte à son niveau. Du coup, votre livre en effet s'adresse au plus grand nombre. Et du coup, moi, le seul reproche que je pourrais vous faire, ce sont ces anglicismes qui donnent un ton un peu faussement jeune, parce que ce livre n'en a absolument pas besoin.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques anglicismes, mais alors franchement, moi, c'est pas ce qui m'a frappé, mais bon, oui. Bon, Amélie, un peu de francophonie quand même.
Après, on va dire que dans les menus zéro déchet, on utilise souvent le terme healthy, mais c'est juste une manière pour nous de représenter la cuisine saine. Et c'est vrai que finalement, on utilise plus souvent des mots anglais que des mots français pour ça.
Bon, il faudra changer ça. En tout cas, dans votre livre réalisé avec Émilie Hébert, vous dites en introduction qu'il ne faut pas culpabiliser parce que chaque petit geste compte en fait.
Exactement. Moi, ce que je pense, c'est qu'à notre niveau, on peut tous faire quelque chose. Après, il ne faut pas que ça devienne une obsession. C'est-à-dire que vous faites avec le temps que vous avez, vous faites ce que vous pouvez. Mais de toute façon, si déjà vous refusez le sac plastique au supermarché, que vous achetez pas les 6 packs de madeleine alors que vous avez besoin que d'un paquet de madeleine, ou que vous les faites à la maison avec de la farine, au lieu justement de les acheter dans des emballages plastiques et avec des dates limites de consommation et sur des grosses quantités. Voilà, chacun peut faire à son niveau. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose pour la planète. Ça commence par des petites choses et puis ça vient petit à petit. Il ne faut pas se mettre la pression dès le départ à vouloir être zéro gaspille, zéro déchet et puis finalement tout abandonner parce qu'on n'a pas
rien
le temps.
Faire. Ouais, c'est ça.
Exactement.
C'est comme le sport, il vaut mieux en faire un peu que pas du tout. Il faut
exactement.
Se lancer. Quoi.
C'est tout vous... à fait ça.
Vous donnez des trucs. Hein. On peut par exemple réutiliser les coquilles d'œufs pour la maison. Ça sert d'abrasif pour nettoyer ou de répulsif d'ailleurs pour les insectes si on les réduit en poudre. Conserver l'eau de cuisson pour les plantes et puis on peut faire du vinaigre avec des peaux de banane, Amélie Roman. La peau de banane, c'est bon aussi pour le cuir.
Oui, exactement, pour frotter vos chaussures, pour au lieu de les jeter tout de suite à la poubelle, enfin, de pas les jeter, de les composter. Ça, je pense que c'est le plus simple à mettre en place, composter tout ce qui est fruits et légumes au lieu de les jeter à la poubelle. Mais avant ça, effectivement, vous pouvez utiliser les peaux de banane pour cirer vos chaussures. Oui.
Voilà, tout est possible. Il y a plein de trucs comme ça dans ce livre. Il faut agir parce que le gaspillage alimentaire, c'est un scandale absolu. Au Canada, 40% de la nourriture produite, 40% est gaspillée, soit plus de 6 millions de tonnes par an, 183 kilos par habitant, ce qui correspond au Canada, une perte en plus financière de 100 milliards de dollars. Et puis il y a ce que le citoyen jette lui-même, vous l'avez dit Amélie tout à l'heure. En Belgique, on estime que les Wallons jettent entre 14 et 23 kilos de nourriture dans leurs poubelles chaque année. Et là, évidemment, on peut agir, on peut éviter de jeter.
Oui, exactement. Après, c'est ce que je vous disais, il faut éviter d'acheter beaucoup et vous jetterez moins. Mais... Et ça, c'est quelque chose en fait qui nous paraît peut-être pas logique à nous, mais nos grands-parents, quand ils allaient faire les courses, ils n'achetaient pas 10 kilos de viande pour en jeter 2 parce que c'était en promotion, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, ça n'existait pas avant, c'est vrai.
Exactement, c'est quelque chose qui est tout à fait logique.
Voilà, et on sait faire. Bon, à noter que le Canada a désigné le 16 octobre comme étant la journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Tous les pays s'y mettent donc. Merci Amélie Roman, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cuisiné, éco-responsable est paru chez Mango. À suivre, l'écrivain Tigraïmi, prix Goncourt 2008, qui publie son nouveau roman Les Porteurs d'eau, plein de poésie et de symboles. Et puis tout à l'heure, un entretien exclusif dans un lieu de Port-au-Prince avec Yannick Lahens, qui entre au Collège de France le 21 mars. Avant cela, voici la chanteuse québécoise Ellie Rose dans la librairie francophone.
Par où commencer ? Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée. Mes rêves ne cessent de me hanter. Tu es le secret que j'ai gardé. Il suffisait d'y croire. Nous aurions pu courir le monde comme deux âmes vagabondes. Tu es ma lumière dans le noir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Un pari que je perds. Encore un autre coup de tête. Oh, c'est un rêve éphémère dont seul toi tiens les rênes. Il suffisait d'y croire. J'entends le château qui s'effondre, abandonné sous les décombres. Pour toi ce n'est qu'un au revoir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions.
La québécoise Ellie Rose avec Tôt ou tard sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Atik Raimi est dans la librairie pour son roman Les Porteurs d'eau, paru chez POL. Deux hommes en souffrance, deux récits en parallèle. L'un en Afghanistan, l'autre en Europe, entre Paris et Amsterdam. Des symboles, de la poésie, c'est un conte persan francophone, Atik Raimi, ce livre.
Je crois que oui.
Il y a toutes les composantes du conte persan.
Oui, bah écoutez, je viens d'une culture dans laquelle le conte l'emporte sur le roman,
oui.
La poésie sur la théorie. Donc,
et le langage aussi.
Je viens de la culture persane faune, donc dans laquelle on ne pense qu'avec de la poésie.
Mmh. Et avec des détours. Vous l'aviez dit d'ailleurs dans cette émission déjà, et vous l'expliquez dans ce livre à un moment, que votre langue natale n'exprime pas les choses de la même façon que le français. On passe par des chemins détournés.
Absolument. On essaie toujours de cacher les choses au lieu de les dire. Le langage est pour nous plutôt pour cacher que pour analyser. Et révélé, bien sûr.
Alors, votre récit se déroule le 11 mars 2001, date à laquelle les talibans détruisent les deux bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, 5 mois avant l'assassinat du commandant Massoud et des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Là aussi, le symbole de la destruction de ces bouddhas est très fort. Ça a été le début de beaucoup de choses, ça.
Absolument. D'autant plus que les talibans ont détruit les deux bouddhas le 8 mars, c'est-à-dire le jour, la journée internationale des
oui,
femmes.
Exact, oui.
Mais ensuite, ils ont annoncé le 11.
Voilà.
Bien sûr, on peut dire que c'est un hasard de calendrier, ou peu importe, mais ce qui était quelque chose, à mon sens, un message aux autres musulmans intégristes.
Ouais, c'est voilà. Ça. Alors, il y a plein de messages, du coup, dans votre roman à Tigraïmi, parce qu'il y a une double déambulation. À Kaboul, il y a Youssef, qui est un porteur d'eau, qui alimente en eau les maisons de son quartier. Il est amoureux en secret de Shirin, la femme de son frère disparu, on sait pas où il est. En banlieue parisienne, il y a Tom, franco-afghan, qui quitte son épouse et sa petite fille pour aller rejoindre Nouria, à Amsterdam. Pourtant, c'est grâce à sa première femme qu'il a réussi son exil, qu'il a pu construire sa vie. Mais il quitte tout. Comme une révolte injuste.
De la même manière, quand il était en Afghanistan, il est né là-bas, il quitte sa famille, sa terre natale, pour venir en France.
Oui. Mais là, il n'avait pas le choix, peut-être. C'était moins injuste.
Oui, mais là, bon, ça arrive vous voyez, dans la vie de toutes les personnes. Et puis,
De quitter sa femme et son enfant.
De quitter son enfant et d'aller. C'est l'amour. Vous voyez, c'est ce que je dis, l'amour en soi est un exil pour lequel on est prêt à quitter tout.
Et c'est parfois une trahison.
Aussi, bien sûr. Sinon.
Sinon quoi?
Ça serait pas l'amour, hein, c'est toujours.
Ça serait pas intéressant, c'est ça?
Écoutez, je crois que l'amour, l'amour passion, l'amour sentiment était toujours comme ça, vous voyez. C'est toujours l'interdit, c'est la transgression. Mes deux personnages transgressent d'une certaine manière les codes sociaux.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ces deux hommes, à la fois, ils sont victimes et ils sont aussi bourreaux. Car l'air de rien, par leurs inactions ou leurs problèmes de communication, parce que c'est ça aussi, hein, ils font mal à eux-mêmes et aux autres.
Le cas de Youssef est assez particulier. C'est un porteur d'eau, analphabète, illettré. Il n'a pas des mots pour les poser sur ses sentiments. Il ne sait pas ce que lui arrive. Pourquoi à la fois cet attachement et cette violence à l'égard de sa belle-sœur? Tout simplement parce que il ne sait pas s'exprimer.
Oui, c'est ça.
Et là, de l'autre côté, c'est Tom. Son nom d'origine, c'est Tamim.
Oui.
Mais après s'être naturalisé, ou comme sa sœur lui dit, empaillé, en bon français.
Un Afghan empaillé.
Voilà. Et lui, au contraire, il est dans les mots, il est dans l'analyse, dans l'interprétation.
Oui, mais il ne formule pas. Et c'est ça que vous explorez aussi dans ce livre, la nécessité de dire ou de ne pas dire.
Alors encore, c'est notre culture d'origine. Ici, la grande question existentielle, c'est être ou ne pas être.
Oui.
Mais là-bas, c'est dire ou ne pas dire.
Alors faut-il exprimer ses sentiments et ses doutes? Ou faut-il les dissimuler? Quel est votre avis, vous?
Moi, en tant que romancier et quelqu'un qui a vécu plus en France, dans une autre culture, bien sûr, pour moi, le roman, l'écriture, c'est pour révéler sa propre vérité.
Et en tant qu'Afghan?
En tant qu'Afghan, je dissimule pas mal de choses.
Ouais, vous faites ce qui vous arrange, en fait. Bon, il y a un personnage qui est un poète, d'ailleurs, dans votre livre, Tigraïmi, qui dit à Tom qu'aucune histoire d'amour n'est ratée. Elles ne sont qu'inachevées.
C'est vrai que toutes les histoires d'amour sont inachevées pour moi.
Ah, toutes les histoires sont inachevées pour vous?
Oui. Si c'est achevé, il n'y a plus d'intérêt.
Oui, remarque. Donc, les histoires d'amour inachevées, elles continuent.
Bien sûr, vous voyez, c'est ça, quand si c'est inachevé, ça se répète.
Si c'est achevé, c'est la rupture.
Si c'est achevé, c'est la rupture, c'est la fin. Un point, c'est tout. Mais quand c'est inachevé, c'est la répétition. Et vous voyez,
pas forcément.
Quelque chose se répète tout le temps parce que.
Mais quand c'est inachevé, ça se répète pas forcément. Ça se poursuit.
Ça se poursuit, ça se répète aussi.
Oui.
Aussi.
Bon, je suis perdu. C'est la fièvre. On va voir avec les libraires. Moi, j'ai perdu, Tigrémy. On va voir les libraires ce qu'ils en pensent. La France, le Canada, la Suisse et la Belgique. On commence par qui?
La Belgique. Parce que je vais me rendre lundi. Donc,
très voilà. Bien. Allez, Déborah Damblon, c'est à vous.
Eh bien, moi, j'aime votre écriture, monsieur Raimi. Vraiment, je la trouve belle, je la trouve précise et puis réduite à la justesse essentielle. D'ailleurs, je l'aime tellement que parfois, j'aime me lire certaines de vos phrases rien que pour en entendre le son. Mais parfois, vos récits m'enthousiasment de la même manière que votre écriture et parfois un petit peu moins. Bah, cette fois-ci, c'était un petit peu moins. Je me suis moins intéressée à vos personnages et à leur destin. Alors oui, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave non plus parce que malgré ça, bah, bizarrement, vous lire, ça reste un grand bonheur.
Bah, merci.
On va voir avec les autres. Avec Thomas Hausser, qui est en France. Vous êtes d'accord avec votre collègue?
Bah, je suis un petit peu d'accord avec Déborah. Moi aussi, je suis un petit peu partagé, Attic. Alors, d'un côté, je me suis un petit peu perdu dans le dernier quart de votre roman. Et puis, c'est vrai que le final que j'envisageais... j'envisageais pas le final comme ça. Donc, j'étais un peu bousculé.
Ouais, ça, bon.
D'un autre côté, j'ai beaucoup apprécié votre écriture. J'ai reconnu cette poésie que j'adore, que j'avais découverte dans Singe et Sabour. J'avais retrouvé aussi dans La Balade du Calame. J'ai adoré la construction du livre et puis la dualité France-Afghanistan. Donc, je suis partagé, mais plutôt du bon côté, quand même.
Bah, écoutez.
C'est une déambulation, donc il y a plein de choses, effectivement. C'est assez lent, d'ailleurs, hein, comme récit. Il y a des choses à prendre. Bon, bref, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Le Canada, Jérémy Daniel. Je crois que vous êtes d'accord avec Thomas, Jérémy, en plus.
Oui, un peu. Mais Attic Raimi fait partie des rares écrivains ayant écrit un grand livre. Et ça vient malheureusement avec des inconvénients. Les Porteurs d'eau, c'est un bon livre, mais il se lit dans l'ombre de Singe et Sabour. Wow. On retrouve quand même la langue, la poésie de Raimi, hein, qui a fait sa marque. Et le thème de l'exil dans ses livres, il faut le dire, hein, c'est habilement traité avec toute la beauté et la cruauté que ça nécessite.
Bien. La Suisse pour trancher, Laura Sanchez.
Alors moi...
Ils sont pas commodes aujourd'hui, hein.
Non, c'est un peu rude. Le projet du livre m'a plu. Donc, ces histoires croisées d'amour interdites, entre guillemets. L'unité de temps aussi, qui produit une tension très intéressante. Moi, j'ai nettement préféré la deuxième moitié qui déploie la trame avec beaucoup plus d'amplitude. Mais malheureusement, moi, j'ai eu du mal à entrer dans ce texte. Je crois que je suis passée à côté du projet formel et littéraire du livre.
Bon, ils ont aimé, mais ils sont partagés. Moi, j'ai jamais vu ça encore. Mais c'est vrai, hein, Thomas Hausser.
Non, c'est vrai, ouais. Là, c'est...
Vous avez aimé, mais bof.
Pas bof.
C'est bizarre.
Parce que, non, mais la langue est super, mais voilà, je sais pas.
Ouais. Bon, en tout cas, il y a une langue à Tigrémy, il y a plein de symboles surtout. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on peut peut-être s'y perdre pour certains, en tout cas. Mais si on y plonge complètement, on y voit beaucoup de choses. Sur la vie, sur la société, mm-hmm. sur le monde, la symbolique de l'eau, par exemple. Mm-hmm. Source de vie, de pureté, de mort aussi. Chacun de nous, dites-vous, est porteur d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, c'est mon personnage, Ruspinoza, que Tom rencontre dans un coffee shop à Amsterdam, lui dit ça. Parce que, en effet, plus de 80% de notre corps est composé d'eau. Donc, on est tous porteurs d'eau. Et deuxième chose, c'est que dans la pensée indienne, et même dans beaucoup d'autres cultures, l'eau symbolise justement l'âme, l'esprit, la vie.
Et vos personnages semblent vivre comme ça sans cesse dans une forme de clandestinité, je dirais, entre deux eaux, justement. Mm-hmm. Que ce soit à Kaboul ou à Paris, ces deux-là sont en marge.
En effet, Youssef, dans sa ville natale, dans sa culture, dans tout ça, est aussi perdu que Tom, ici en Occident et en exil. L'un face à l'histoire, l'autre face à l'exil.
Oui, c'est-à-dire qu'ils fantasment leur vie aussi. Mm-hmm. Et c'est ce qui les conduit à être perdus. Ils vivent comme dans un conte, un peu comme dans votre livre. Les Afghans sont-ils du coup un peu perdus dans leur vie à force de lire des contes?
On peut dire ça aussi, bah oui, parce que quand même, ça nous met en distance par rapport à la réalité des choses. Mais pour moi, la poésie, l'art, tout ça... Justement, c'est ça, pour ne pas, comme disait Nietzsche, pour ne pas mourir de la réalité.
Ouais.
Avec la littérature, en effet, on ne change pas le monde, mais on change de monde. Et ça, c'est énorme.
Karl Norak a l'air d'accord avec vous.
Moi, j'écris des poèmes qui demandent aux enfants de changer le monde quand même un tout petit peu. Et je pense que voilà, il faut mettre cette petite graine-là qui est très importante.
On change le monde, en effet. Mais pas le monde.
Pas toujours.
Non.
Ça peut, hein. Ça pourrait, l'utopie de la poésie et de la littérature. Changer le monde.
Ça change les individus, oui.
Déjà, ça commence par là.
Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et à force, justement, de changer les individus, on va changer la société et espérons le monde.
Bah voyez, vous y venez. Bon, merci beaucoup à Tigraïmi.
Merci
d'être fidèle à la librairie francophone. On vous suit depuis de nombreuses années maintenant.
Bien sûr.
Et on vous restera fidèle en tout cas.
Merci
Attic. Les Porteurs d'eau est paru aux éditions POL. À suivre, un entretien avec Yannick Lins depuis Port-au-Prince en Haïti. Nous avons rencontré l'auteur à quelques semaines de son entrée au Collège de France. Interview en avant-première de celle qui va faire l'événement francophone de ce mois de mars. Décryptage après le nouveau titre de M, bonne journée ou bonne soirée à travers le monde avec la librairie francophone.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con. Aime du matin au soir. Et surtout n'oublie pas, quand petit con c'est toi. Quand petit con c'est moi. Quand petit con c'est toi. Quand petit con c'est moi.
Grand petit con. Je n'insulte personne sur le plateau. C'est le titre du nouveau M. Mathieu Chédid.
La librairie francophone. Une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
La chronique des libraires qui ne sont pas de grands petits cons avec les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec un coup de cœur qui est un hommage à une grande personnalité suisse qui vient de disparaître, Laura Sanchez.
Oui, un Genevois mondialement reconnu, ce n'est pas si courant. Jean Starobinski est décédé cette semaine, il aurait eu 100 ans l'année prochaine. C'était un grand connaisseur de la pensée de Rousseau entre autres et un immense critique littéraire. Il a publié 900 articles et 30 livres, dont certains au titre tellement inspirant. Il y a eu L'œil vivant ou encore La beauté du monde. Et puis, pour l'anecdote, il avait dû déménager son appartement en 2010. L'occasion pour lui de faire don de sa bibliothèque aux archives littéraires suisses. Cela représentait, tenez-vous bien, 40 000 livres.
Jean Starobinski, donc, est mort à l'âge de 98 ans. À Tigraïmi, vous avez lu son œuvre en partie?
Oui, j'avais fait un film sur la pratique du journal intime. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai lu ce livre sur la biographie des grands auteurs.
Spécialiste de Rousseau, de Montesquieu et de Diderot également. Merci beaucoup, Laura. Jérémy Lagniel, pour le Canada, on part dans le rayon des livres d'art avec votre coup de cœur.
Oui, un splendide livre qui s'intitule « Ce qui se trame », 12 entretiens autour du théâtre de Brigitte Engens. C'est publié aux éditions du Passage dans la série « Autour de l'art ». C'est vraiment un livre splendide. 12 entretiens autour du travail de Engens qui travaille au théâtre Sibylline depuis pas loin de 20 ans. On s'entretient pas simplement avec des acteurs, mais des dramaturges, des photographes, des maquilleurs, des costumiers. On a vraiment un portrait d'ensemble sur tout ce qui est la création. Ça peut sembler niché, vraiment. Et pourtant, ceux qui aiment le théâtre, l'art vivant et même simplement la création, c'est un livre essentiel, Ce qui se trame, 12 entretiens autour du théâtre de Brigitte Engens.
Aux éditions du Passage. Merci Jérémy. Thomas Auxerre en France, un coup de gueule.
Eh ben oui, Emmanuel, je pousse un coup de gueule en fait contre les éditeurs de livres pour la jeunesse qui produisent leurs livres parfois en fonction et uniquement des sujets vendeurs. Alors en ce moment, c'est la méthode Montessori, il y a aussi les livres, tout ce qui touche aux émotions pour les jeunes. Alors résultat, dès que ça marche chez les autres, les éditeurs jeunesse se disent on va créer une nouvelle série, on réédite d'anciennes éditions, on invente de nouveaux personnages, en se disant ça va marcher, il y a pas de raison. Eh ben non, ça marche pas toujours. Alors du coup, nous nos stocks débordent, mais alors totalement.
Ah oui, avec les mêmes sujets. Ouais.
Ah oui, et puis alors du coup, les gens savent plus quoi choisir. Alors même nous, on a du mal à tous les lire. Donc là, un petit peu de retenue, s'il vous plaît.
C'est la pagaille, quoi.
C'est la pagaille.
Dans le rayon des livres jeunesse en ce moment. Merci Thomas. Déborah Damblon en Belgique, un coup de cœur dans le rayon de la poésie en ce lancement du printemps des poètes.
Et voilà pour un très très beau livre qui s'intitule « Elles viennent dans la nuit ». C'est écrit par Corinne Hooks, illustré par Kiki Crèvecoeur. Et c'est vraiment une perle, un bijou. C'est un livre incroyable. Et pourtant, il n'y a que quelques mots. Ils sont répétés comme une litanie et puis ils se construisent. Et puis, il n'y a que quelques touches de couleurs. Elles sont sourdes et puis ça devient des estampes. Et c'est un livre absolument magnifique. Comme quoi, avec très très peu de choses, mais beaucoup beaucoup de talent, un livre, ça peut nous toucher, ça peut nous emmener très loin, très loin, très loin.
Elles viennent dans la nuit aux éditions Esperluette. Merci beaucoup Déborah. On vous emmène à Port-au-Prince à présent, une nouvelle fois. Yannick Lahens est la première titulaire de la chaire des mondes francophones au Collège de France. Sa leçon inaugurale est fixée au 21 mars prochain et ses cours sur Haïti, gratuits et ouverts à tous, débuteront début avril. Un événement pour Haïti qui voit ainsi l'un de ses grands auteurs obtenir l'une des plus hautes distinctions de l'enseignement en France. Voici un entretien avec Yannick Lahens en avant-première, réalisé sur place dans un lieu qu'elle a choisi pour nous.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Yannick Lahens.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici à Port-au-Prince, en Haïti, dans un lieu nommé le Quartier Latin. On vous a laissé choisir l'endroit. Racontez-nous, décrivez-nous où nous sommes ici en Haïti.
D'abord, c'est un petit peu mon bureau, parce que dès que j'ai les rendez-vous et que je ne suis pas prête à la maison, c'était vraiment à deux pas de chez moi. Et c'est une brasserie où souvent il y a des prestations de musiciens de jazz et surtout de la musique. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup à cause de ça. Et puis à l'intérieur, c'est très joliment décoré, il y a des tas de graffitis sur les murs. Ça rappelle un peu la Bodeguita à Cuba, à La Havane.
Oui, c'est vrai que c'est très cubain. Ouais.
Voilà, ce lieu où allait Hemingway. Donc j'aime beaucoup.
Oui, avec une belle table de mosaïque là, exactement. Immense, où on est installé, c'est sublime. On a les photos sur internet que vous pouvez aller voir sur notre site. Bon, vous êtes très active, Yannick Lahens, dans le monde culturel haïtien depuis toujours. À la radio, auprès du ministre de la Culture aussi, Raoul Peck à l'époque, avec une fondation pour les jeunes, et vous vous interrogez autour de deux thèmes majeurs, la question postcoloniale et l'exil. Partir ou rester, c'est la question fondamentale ici en Haïti.
Oui, alors c'est un peu ce que je vais reprendre d'ailleurs dans la leçon inaugurale au Collège de France. La question de partir ou rester, c'est la question aussi d'habiter. Comment habiter ce lieu qui est
tellement particulier dans l'histoire non seulement de la région, mais peut-être du monde, et qui renvoie à cette question que se posent tous ceux qui ont été colonisés. Parce que ce ne sont pas des lieux que l'on rend habitables. C'est compliqué de rendre ce lieu habitable. Donc c'est une question qui traverse toute l'histoire et qui traverse la littérature aussi.
Et c'est compliqué, ça a été compliqué
très
ici.
Très compliqué pour Haïti.
Pour les raisons politiques qu'on connaît, absolument. À cause de la nature aussi, qui reprend ses droits régulièrement, absolument. En tout cas qui a des caprices désastreux.
On est vraiment un hasard historique, hasard, je pourrais dire géologique. Ouais. Et puis on est sur la route des cyclones, donc ça fait beaucoup.
Alors le 21 mars, Yannick Lahens, vous entrerez au Collège de France, vous l'avez dit, pour occuper la chaire des mondes francophones, dont vous serez titulaire pour un an. Vous en serez la première titulaire, c'est un événement pour la francophonie, un événement aussi parce qu'une femme haïtienne qui est nommée au Collège de France, c'est très important, on connaît Dany Laferrière qui est à l'Académie française, et vous, bah, vous rajoutez une petite pierre, si je peux dire. Comment vous le vivez ce moment-là ?
Écoutez, d'abord, je n'y ai pas cru du tout au début, quand mon éditrice m'en a parlé, donc voilà... C'est devenu une réalité quand Antoine Compagnon m'a fait un courriel. D'abord, pour moi, il faut faire advenir les mondes francophones. C'est pour ça que le mot francophonie n'apparaîtra pas du tout dans mon exposé. Cela suppose des savoirs partagés. Et là, on n'en est pas encore là. Parce qu'il y a une centralisation du savoir à partir de la France et qui est déversée sur les autres pays où le français est utilisé. Or, je pense qu'il faut un mouvement de va-et-vient, non seulement de ces pays vers la France, mais de ces pays entre eux.
Il faut décloisonner.
Exactement.
Décentraliser aussi.
Absolument.
La France n'a pas le monopole de la francophonie, surtout pas.
Exactement.
Mais ça, on le sait finalement, Yannick.
Oui, mais...
Parce que vous êtes nombreux à dire ça, mais on le sait. On le sait, sauf que c'est pas apparent.
Tout à fait. Et je pense que Haïti étant le premier pays qui sort de la colonisation, qui a eu toute une longue histoire... à travers l'utilisation de la langue française. Comment est-ce qu'elle a relocalisé cette langue française ? Et non seulement la langue française, mais la culture française, parce qu'il n'y a pas que la langue française. Elle a des choses à dire de ce point de vue-là. Aujourd'hui, par exemple, la littérature haïtienne se fait dans quatre langues. Le créole, le français, l'anglais et l'espagnol. Ça aussi, ça donne un éclairage sur l'obligation pour le français aussi de vivre avec d'autres langues. Et ça montre aussi qu'une langue n'a pas qu'une seule patrie ni qu'un seul drapeau. Et la diaspora haïtienne en littérature a énormément fait, aussi bien en Afrique qu'au Canada. Donc c'est aussi déjà une transversalité dont nous avons fait preuve. Donc les mondes francophones, il faut les faire advenir.
Cette entrée au Collège de France est un symbole fort, Yannick, parce que on choisit déjà une femme haïtienne, mais ce qui vous séduit tout particulièrement, c'est l'intitulé. Monde francophone au pluriel. Ça, ça a tout son sens, c'est ce que vous venez d'expliquer. Mais ça va au-delà encore, finalement, de la francophonie, parce que les mondes francophones, on peut imaginer qu'ils s'enrichissent, effectivement, de toutes les nationalités, de toutes les langues, et la représentation de la francophonie, ce n'est pas seulement dans les pays où on parle le français. Et ça, c'est une nouvelle donnée, une nouvelle donne internationale, où on se rend compte qu'on peut faire vivre et qu'on doit faire vivre la francophonie dans tous les pays avec la communauté francophone.
Tout à fait. Comment peut-on parler de l'histoire de France sans parler de l'histoire de la colonisation ? Il y a eu des dictionnaires de la Révolution française qui ont été faits. Pas une mention, pas une entrée sur la Révolution haïtienne. Or, la Révolution haïtienne, 15%, 20% de ceux qui étaient dans les assemblées étaient propriétaires d'esclaves. Ça fait partie de l'histoire de France. Si la bourgeoisie a pu s'enrichir, celle de la côte atlantique, pour faire la Révolution française, c'est parce qu'elle s'est enrichie avec les colonies. Donc on ne peut pas faire une impasse.
Occulter ça.
Absolument. Pour l'instant, elle n'est pas partagée.
C'est comme si on cachait, quoi.
Oui. Et on ne cache pas par hasard.
Et vous pensez que ça résoudrait, justement, beaucoup de choses, ça, de reconnaître officiellement, de l'intégrer dans les livres d'histoire à l'école, et de pouvoir poursuivre tous ensemble, main dans la main.
On est un pays du Sud, et vous avez des Suds dans votre France aujourd'hui. Et je pense que si vous ne regardez pas ces Suds qui sont dans la France aujourd'hui, vous n'allez pas construire la France de demain. Impossible.
Et vous dites aussi, la littérature d'Haïti est une littérature d'urgence. Urgence de dire et rêver d'habiter. Alors, urgence de dire, on a compris. Avec l'entretien qu'on est en train de faire ici à Port-au-Prince avec vous, Yannick Lahens. Mais rêver d'habiter, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire qu'il y a toujours eu la difficulté de l'habiter. Il y a toujours eu le rêve de pouvoir habiter. Il ne faut pas oublier que ceux qui écrivent en français, dans une langue quand même coupée de la majorité. Et il y a toujours cet appel du Nord, parce que le Nord est toujours représenté comme le seul lieu habitable. Donc il y a toujours cette espèce de tiraillement entre ce vouloir habiter et ce besoin de partir. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des jeunes écrivains qui ont choisi de rester, il y en a des jeunes écrivains qui ont choisi de partir. On ne pose pas de jugement, chacun fait ses choix individuels, mais la question se pose encore. Oui. Et c'est intéressant de voir même les personnages de romans jusqu'à un certain moment étaient des personnages qui partaient pour rapporter la bonne nouvelle. Voilà, un peu.
Et alors, ça change tout. Parce que quand on écrit sur place, comme vous, vous le faites, Yannick Lins, comme le fait Lionel Trouillot,
Gary Victor,
Franck Etienne, oui, et plein d'autres. Ça change finalement la formulation et ça change l'œuvre. Quand on fait un entretien pour la radio comme on le fait là, qu'on le fasse à Port-au-Prince, ici, en ce moment, ou qu'on le fasse à Paris, à Montréal ou à Lausanne, peu importe, ça aussi, ça change les choses.
Ah ben oui, forcément, puisque là, l'entour, l'environnement, les difficultés. Parce que quelles que soient les possibilités matérielles, on habite une maison, Franck Etienne habite une maison, j'habite une maison convenable.
À côté d'ici, d'ailleurs.
Oui, je ne sais pas. Mais il y a des difficultés énormes. Ne pas avoir d'électricité. C'est une difficulté, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient. L'insécurité, c'est une difficulté peut-être pas aussi forte pour nous qui habitons les quartiers plus ou moins préservés, mais c'est une difficulté si on doit aller dans le sud, si on doit aller dans le nord, etc. Ces difficultés-là font qu'on ne peut pas écrire la même chose, de la même façon. C'est normal.
Et quand on en parle, et qu'on est à côté, c'est différent aussi. Parce que quand on part, on a tendance à le mettre un peu de côté. On a tendance à vivre l'endroit dans lequel on est.
Ce qui est normal.
Là, vous sortez de chez vous. Oui. Donc forcément, oui. C'est à chaud.
Oui. Mais
tout le temps.
Oui. Oui. Tout le temps. Oui. Et je pense que quelques personnes aient envie d'en sortir, c'est un peu normal aussi.
Merci beaucoup, Yannick Lins, alors qu'il y a un tap-tap qui entre dans cet endroit, le quartier latin. Oui. Très décoré, d'ailleurs, magnifique, tout rouge avec des dessins. Merci beaucoup, Yannick Lins. Vous entrez donc au Collège de France le 21 mars. C'est la leçon inaugurale. Bonne chance à vous.
Oui, merci, j'accepte ça tout à fait.
J'espère que la librairie francophone vous portera chance.
Absolument, j'espère. Je croise les doigts, oui.
Et votre livre, donc, est paru chez Sabine Vespizer, L'oiseau par cœur dans la nuit et autres nouvelles. Merci beaucoup pour cet échange ici à Port-au-Prince, sous le soleil d'Haïti, avec cette chaleur, cette ferveur de la ville.
Très agréable, oui, c'est vrai.
Merci, Yannick. Et vous retrouverez Yannick Lins depuis Haïti pour parler de son nouveau livre dans une émission spéciale reportage que nous préparons et qui sera diffusée à Pâques.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici Équateur avec Pélican.
J'avance et je vois les pélicans autour de nous, dans les jardins de l'amour, les palmiers sont en velours. J'attends les vacances depuis 330 jours. Ce soir la jungle nous donne tout. Les tropiques sont au rendez-vous. J'ai tant besoin de toi pour m'évader d'ici. Changer d'atmosphère, tout refaire à l'envers. Alors à quoi ça sert? J'avance et je vois les pélicans autour de nous, dans les jardins de l'amour, les palmiers sont en velours. J'attends les vacances depuis 330 jours. Ce soir la jungle nous donne tout, les tropiques sont au rendez-vous. Thank you.
sans trop de jours. Ce soir la jungle nous donne tout. Les tropiques sont au rendez-vous. J'avance et je vois les pélicans autour de nous. Dans les jardins de l'amour, les palmiers sont en velours. J'attends les vacances depuis 330 jours. Ce soir la jungle nous donne tout. Les tropiques sont au rendez-vous.
Équateur avec Pélican, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. N'oubliez pas la première édition de la librairie francophone à la télévision après RTS2, RTBF La 3 et ICI RTV au Canada. Diffusion sur TV5 Monde dimanche à 19h. À la réalisation Étienne Bertin avec Théo Gomard, à la technique Thierry Dupin, à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Stéphanie Valois en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Leput en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguay avec Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc au Salon du Livre de Paris en public avec notamment le chanteur et auteur Kali Gentelet qui co-animera l'émission avec moi et le Belge Thomas Gunzig, entre autres. Enregistrement vendredi à 15h. Soyez nombreux. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Salut.